OK. Alors, vous savez qu'on est dernier dimanche du mois, donc à considérer la souveraineté de Dieu. Et ce matin, on va considérer le plaisir souverain de Dieu. Là, ouais, c'est quoi ça? Ben, vous allez voir. C'est pour ça qu'on a un message là-dessus. On va considérer qu'est-ce que ça implique. On va lire les versets 3 à 11 de... C'est l'ouverture majestueuse de ce grand épître du Nouveau Testament. Si plusieurs ont dit que le livre aux Romains est la cathédrale de la foi et l'apogée de la révélation du Nouveau Testament, ben, je dirais qu'Éphésiens, c'est à peu près son petit cousin ou quelque chose de même, parce que Éphésiens est très riche aussi. Et on a eu le privilège en tant qu'Église de considérer systématiquement les deux épîtres, autant l'épître aux Romains, il y a quand même plusieurs années, puis aussi Éphésiens, peut-être qu'on a terminé ça il y a 2 ans, je ne me rappelle pas, en tout cas. Donc, on lit les versets 3 à 11 de Éphésiens, chapitre 1. J'avais-tu dit le chapitre? Éphésiens 1, chapitre, verset 3. Là, j'étudie une affaire que tout le monde a compris. Je pense que je me suis mêlé dans mes références. Ça m'arrive quasiment jamais. C'est juste pour faire un peu de variété, là, que j'essaie de mêler un peu pour que... pas trop que vous pensiez, là, que je suis jamais mêlé. OK. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestiné selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et on arrête à une virgule, mais savez-vous, si on voulait arrêter au point, il faudrait lire tout le chapitre 1. Parce que Paul avait un bon souffle. C'est une phrase, le chapitre 1. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais Paul était pas mal théologiquement riche, mettons. Des fois, quand il partait sur une chire là, à parler des choses de Dieu, il devait être dur à arrêter. Là. Fait que on va arrêter là pour l'instant. Et je vais prier, puis ensuite je vais vous faire remarquer 2 choses dans le texte qu'on vient de lire. Seigneur, on veut encore s'approcher de toi simplement pour te demander d'ouvrir notre intelligence. Merci que tu nous montres dans ce texte que tu nous as déjà bénis de toute bénédiction céleste, spirituelle dans les lieux célestes. Merci pour ça, Seigneur. Seigneur, évidemment, ce passage s'adresse à tes enfants, à ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et Seigneur, s'il y en a ici qui ne t'ont pas encore reçu comme le sauveur de leur vie, comme la provision unique, le paiement pour le pardon de leurs péchés, ah Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux sur la croix, sur Jésus-Christ, sur la rédemption dont on vient de lire. Seigneur, merci que ta parole est vivante, que ton esprit convainque et que Seigneur, tu es un Dieu d'amour qui appelle encore à toi ceux qui sont éloignés. Et Seigneur, on te prie aussi que pour ton peuple ici réuni, ceux de tes enfants, qu'on puisse, Seigneur, apprécier ce que tu nous révèles sur toi, comment c'est précieux, comment c'est riche, comment c'est une bénédiction spirituelle de pouvoir te connaître, Seigneur. Il y en a tellement d'autres. Seigneur, merci pour toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen. Alors, le plaisir du Dieu souverain. Et il y a 2 expressions qu'on a lues. Je veux juste vous les rappeler. À la fin du verset 5, ça dit « selon le bon plaisir de sa volonté ». Et ça nous dit à la fin du verset 11, « selon le conseil de sa volonté ». Ces deux expressions nous communiquent le plaisir du Dieu souverain. Et je crois que, comme je l'ai dit dans les dernières semaines, ces choses ont des applications, des implications très pratiques dans notre vie quotidienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu là, on a vu trois messages. En fait, on a vu quatre, mais trois messages spécifiquement dans une même direction par rapport à l'impact de la souveraineté de Dieu dans notre vie quotidienne. Ok? Il y a deux semaines, on avait vu que la position élevée, ok, Dieu est souverainement élevé, il est au-dessus de toute chose. Ok? Qu'est-ce que ça fait pour nous? Qu'est-ce que ça suscite comme réponse dans notre vie quotidienne? Se rappeler que Dieu est souverainement élevé, vous rappelez-vous? La soumission. Si Dieu est si élevé, la réponse de ma vie, de mon cœur, c'est de me soumettre. Okay? Reconnaître qui Dieu est, ça me met à ma position. La semaine dernière, on a vu que Dieu est puissant de façon souveraine. Il est tout puissant. Il y a une puissance que rien ne peut arrêter. En fait, le thème du mois de juillet, ça va être la toute-puissance de Dieu. Donc, j'ai hâte parce que j'ai commencé à regarder ça, puis on va avoir du bon matériel à considérer avec ça. Mais le fait comme ça que Dieu est souverainement élevé dans sa puissance, qu'est-ce que ça nous amène comme réponse? Rappelez-vous, on a vu ça la semaine dernière. Si Dieu est tout-puissant et qu'il peut faire toutes choses, qu'est-ce que ça suscite comme réponse chez ses enfants? Vous rappelez-vous? Le réconfort, j'essaie de lire tes lèvres, tu parles pas, c'est sûr que c'est pas, non, le réconfort, ça nous réconforte. Si Dieu est tout puissant puis il peut faire toutes choses, pourquoi je m'inquiéterais? Je peux être calme puis me dire, Dieu est au contrôle, Dieu va s'occuper de toutes choses, je peux être réconforté par ça. Bien aujourd'hui, on voit le plaisir souverain de Dieu et qu'est-ce que ça suscite? L'adoration. L'adoration. Le fait que Dieu fait tout ce qu'il veut selon son bon plaisir, ça devrait simplement susciter l'adoration. Et on va voir pourquoi dans le message. Et certainement, quand on vient de lire les versets ici, j'espère que ça suscite chez nous ce genre de réponse d'adoration. Lorsqu'on absorbe ces vérités qu'on vient de lire, qu'on se les approprie, qu'on les intériorise, ou pour prendre une expression qu'on emploie au Québec, mais qui est un anglicisme, quand on réalise. Vous savez, quand on dit réalise, en français, c'est dire j'ai réalisé une œuvre d'art. Okay? Mais en anglais, on dit realize dans le sens de je me rends compte. Okay? Donc on devrait dire se rendre compte. Là. Mais quand on dit réalise, tout le monde comprend. Mais c'est ça. Petit cours de français à matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça n'a pas vraiment rapport. Mais quand on se rend compte de tout ce qui est dans les vérités qui sont, non seulement dans ce qu'on vient de lire ici, j'ai dit on aurait pu lire tout le chapitre 1, c'est une phrase, mais on continue chapitre 2, chapitre 3, c'est quoi la réponse que ça devrait nous amener? La fin du chapitre 3, hein, ça dit à celui qui peut faire en nous infiniment, on a vu ça la semaine dernière, au-delà de tout ce qu'on pense, qu'on imagine, à lui soit la gloire. La réponse est l'adoration. Quand on voit un si grand salut, une si grande rédemption, des si grandes bénédictions dans les lieux célestes, la réponse normal de celui qui comprend ces choses, c'est de tomber devant sa face, devant un si grand Dieu. La réponse, c'est l'adoration. C'est la seule réponse appropriée. Et les chapitres 4 à 6 nous montrent que ce n'est pas juste une adoration passive, intellectuelle, que ça reste dans le domaine du mental. Non, parce que les chapitres 4 à 6, c'est la mise en pratique, mais c'est le fruit de l'adoration. Si vous voulez, le type d'adoration que ça produit, les chapitres 1 à 3, c'est une adoration active. Quand on voit et qu'on comprend bien c'est quoi les chapitres 4 à 6, c'est juste quelqu'un qui adore Dieu selon la grande rédemption qu'il a eue, puis c'est ce que ça donne comme fruit, les chapitres 4 à 6, la marche dans l'unité de l'Église, dans l'amour, dans l'esprit, dans la grâce spirituelle, ok, dans la sagesse, n'avez oublié un, parce que c'est ça, les chapitres 4 à 6, c'est la marche du chrétien. Donc le message de ce matin, je dirais, il est unique. Puis unique dans le sens que c'est pas souvent qu'on a des messages de même. Je dirais même peut-être inusité, puis je vais vous dire pour les deux raisons pour lesquelles je crois ça. D'abord, je pense qu'il aborde un sujet qu'on n'aborde pas souvent. J'ai essayé de chercher dans ma mémoire, j'ai pas regardé dans toutes mes... Je sais pas comment j'ai prêché le message depuis que je prêche, mais... En tout cas, ça prend ça de large dans mon... Tu sais, puis c'est des messages ça d'épais, là. Fait que, tu sais, je sais pas ça fait combien, là. Faudrait que je fasse un calcul mathématique, là. Peut-être que je vais demander à M. Cagny. Je vais dire, si ça, ça a 2 mm, puis que j'ai... Je vais demander, voir. Je sais qu'ils vont me calculer. Au Bounicou, je vais demander à Bounicou. C'est le genre d'affaire. Ben ouais, c'est facile, hein. C'est vrai, je devrais être capable. Ben ouais, c'est vrai. Ouais, mais moi, je suis nono. C'est quand vient le temps des maths, là, je suis bien bloqué. Je pense que j'ai un blocage qui remonte à bien loin. En tout cas, j'ai essayé de me rappeler, j'ai-tu prêché un message au complet sur le plaisir de Dieu? Je ne me rappelle pas. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu un message sur le plaisir de Dieu? On considère... qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Le plaisir de Dieu. C'est quand même, dans ce sens-là, je vous dis, c'est un peu unique. Parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Mais pourtant, mes amis, je pense que ça a une grande importance. Parce que ça a à voir avec le cœur même de Dieu, sa motivation, ça lui fait plaisir. Ça le motive, il est content avec ces choses-là. Tu sais, on dit, ah, moi, ça me rend content, ça me fait plaisir. Ben là, on regarde ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui le rend content. Il semble que ça devrait être important, n'est-ce pas, dans nos vies? Puis pas important juste pour une chose, dans tout ce qu'il fait. Pour ça que je pense que c'est révélateur, le fait qu'on en parle si peu, c'est révélateur que notre société et nos églises sont caractérisées par le fait qu'on est plus préoccupé par notre plaisir que par celui de Dieu. Ah, ça dit dans Juge 21-25, chacun faisait ce qui lui plaisait à ses propres yeux. C'est quoi qu'il aimait, puis OK? Ah, mais ça, c'est l'Ancien Testament, c'est Israël, ils faisaient dur aux autres, puis nous autres, on est mieux. Non, parce que ça dit dans les derniers temps, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et ça, ça nous caractérise notre époque. C'est un passage prophétique qui parle de nous autres. Fait que on n'a pas à se péter les bretelles de penser qu'on est mieux. On n'est jamais mieux que personne. On ne devrait jamais se comparer. La Bible dit qu'on n'est pas sage quand on fait ça. Mais en plus, je pense que tout ça, ça montre comment on est peu enclin par nature et par culture à considérer quelque chose en dehors de notre propre plaisir. Et encore moins le plaisir de Dieu, quelqu'un qu'on ne voit pas, puis que... OK? On est très peu enclin. C'est pas dans notre nature péché, c'est certainement pas dans notre culture non plus. Rechercher ce qui motive Dieu, ce qui lui plaît à lui, ce qui fait son plaisir. Mais aussi, je pense que le message va être unique et voire inusité aujourd'hui parce que on va faire quelque chose que je me rappelle pas d'avoir fait non plus. On va s'arrêter aux références bibliques principales. OK, ça va pas être exhaustif, là. OK, on va pas voir toutes les références parce qu'on aurait besoin de faire toute une série juste là-dessus. Vous pourrez continuer votre recherche par vous-même. J'ai regardé dans la concordance plaisir, plaît, plu, tu sais, tout ce qui a rapport avec le verbe plaire, OK, par rapport à Dieu. J'ai regardé les références les plus pertinentes pour en tirer des leçons du texte. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va aller voir des références pour aller voir c'est quoi que ça nous communique sur le plaisir de Dieu. C'est pas la façon nécessairement habituelle par laquelle je fonctionne, mais je pense que c'est la plus appropriée pour découvrir réellement, okay, profondément, puis de façon systématique, qui est celui qui est caractérisé par un plaisir souverain. Même là, le plaisir souverain de Dieu, oui, Dieu est souverain, puis même son plaisir, Dieu agit de façon souveraine pour faire ce qui lui plaît. OK? Donc, un petit dernier mot d'introduction avant de plonger dans notre message. La providence de Dieu. Vous savez, c'est quoi la providence de Dieu? Il y a un lien entre la providence de Dieu et le plaisir de Dieu, ce qui plaît à Dieu. La providence de Dieu, ça réfère à ce qui est son but qu'il poursuit avec toute chose. On dit, ah, c'est la providence qui a fait les choses en sorte. En sorte que Dieu est souverain et il permet toute chose dans sa providence. Il poursuit un but avec toute chose. On est très souvent très loin de comprendre c'est quoi ce but-là. Mais Dieu, lui, il sait, puis dans sa providence, il permet ci, puis il permet ça. Même le mal, OK? Il n'est pas l'auteur du mal, mais il permet le mal. Puis comme dans la vie de Joseph, c'est un excellent exemple. Est-ce qu'il était l'auteur du péché de ses frères, de l'avoir vendu en Égypte, puis tout? Non, il n'était pas l'auteur de ça, mais Dieu, dans sa providence, a permis ça pour libérer toute la famille de Joseph, puis qui est devenu le peuple d'Israël. C'était la providence de Dieu. Dieu poursuivait un but avec ça. Okay? Sans être l'auteur du mal, il a permis ces choses parce que ça faisait partie de son grand plan souverain qui est en train d'opérer. Puis c'est une bonne illustration parce que Dieu a fait ça de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'éternité. Pour tout ce qui nous concerne, l'histoire de l'humanité, son grand plan rédempteur, OK? Donc, sa providence et son plaisir, ça va ensemble parce que c'est dans le fond ce qui lui procure le plus grand plaisir, c'est ce qui va le glorifier en bout de ligne parce que Dieu fait toutes choses pour sa gloire, puis à travers son grand plan rédempteur, OK? Parce que ça va le glorifier en tout point, ça va l'exalter comment il est le seul Dieu qui peut faire toutes ces choses puis amener toutes ces choses à un point culminant avec la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la réponse qu'on doit avoir face à ça, un si grand plan, si extraordinaire, si merveilleux, si bienveillant, c'est l'adoration. Donc, on va commencer à considérer ça avec le psaume 115. Donc, juste pour... On va tourner avec moi dans le psaume 115. On va lire les versets 1 à 3. Juste pour rappeler, là... Vous savez, trois messages, c'était trois points. C'était comme un grand message de trois points. Aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est la souveraineté de Dieu nous appelle à l'adoration. OK? Et regardez, psaume 115, d'abord. Puis ensuite, on va aller dans le psaume 135. Psaume 115, regardez versets 1 à 3. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. OK, on arrête là, puis on s'en va dans Psaume 135. Oh, moi j'ai juste tourné une fois, j'ai tombé direct dessus. On va lire les versets 5 et 6. 135, versets 5 et 6. Psaume 135, verset 5. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Les deux passages qu'on vient de lire nous parlent de la souveraineté de Dieu, il est au-dessus de toutes choses et tout ça. Mais on le voit aussi dans le fait que ça dit, dans le psaume 115, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il le fait. Puis, c'est répété aussi, donc, la façon que c'est dit dans le psaume 135, c'est il fait tout ce qu'il veut. Puis dans le psaume 135, ça dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ça revient pas mal au même, là, autrement dit, Dieu est souverain dans sa volonté. Quand on parle de ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui lui plaît, c'est sa volonté. Okay? Dieu fait absolument tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut lui dire « fais pas ci, fais pas ça ». Donc, ces deux expressions-là nous parlent de la volonté souveraine, de son plaisir souverain. Okay? Ça va ensemble. Parce que Dieu fait ce qui lui plaît, puis ce qui lui plaît, c'est ce qu'il veut. Okay? Bon. Maintenant, je pense que plus que jamais, on doit concentrer notre attention sur le fait que Dieu est souverain, et qui n'est pas un spectateur passif de l'histoire d'humanité, OK? Mais plutôt qui est activement impliqué en poursuivant un but, la providence, OK? Alors, il poursuit le but d'amener toute chose à un apogée glorieux. Vous savez que toute l'histoire de l'humanité, ça se dirige vers un but climatique, c'est pas ça se dit, non, ça ressemble à climatique, là. Climactique, c'est un apogée. À la grande consommation de tout le plan de Dieu, boum, à un moment ça va arriver, puis là, ça dit que tout va être, l'ordre de Dieu va être complètement établi, puis ça va être, le résultat final va être waouh, qui aurait pu faire ça? Prendre toute l'histoire si complexe et variée de l'humanité, puis amener ça à un point central de sa volonté parfaite. C'est ça que Dieu va faire, parce que Dieu fait ce qu'il veut, puis c'est ça qui lui fait plaisir, parce que ça va le glorifier, ça va montrer, Dieu, il n'y en a pas un comme lui qui est capable de faire ça. Il fait ce qu'il veut, il n'y a personne qui peut l'arrêter. On regarde, les nations se liguent, puis on peut dire, hein, on s'en rend compte, ils se liguent contre l'Éternel, et contre son roi, de plus en plus, on sent des tensions anti-chrétiennes et anti-bibliques, puis Dieu dans nos sociétés. Dieu, il permet tout ça, là, c'est dans sa providence, puis ça, on s'en va quand même vers le point climatique. Là. C'est-à-dire, il n'y a rien de ça qui peut arrêter ce que Dieu est en train de faire. Dieu fait ce qu'il veut. OK? On va aller un peu plus en détail là-dessus, avec certaines implications de ça tantôt, mais Ce que ça signifie d'abord qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Dieu fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'aucun de nous a le droit de le questionner. Parce que premièrement, on n'était pas là quand Dieu a conçu le plan, puis on n'est pas plus là pour lui dire comment que ça va se développer. On comprend rien. On n'était pas là au début, on comprend rien, puis on ne sait même pas comment ça va finir. Fait qu'on n'est vraiment pas placé pour aller dire à Dieu qu'est-ce que... OK? Et c'est ça que ça implique, le plaisir souverain de Dieu. Et mes amis, dans notre génération de revendicateurs, et ça remonte à loin, les années 70, 60, 70 ont été connues pour des années de revendication, mais maintenant on a une culture de revendication. J'ai le droit, j'ai bien le droit de faire ça, je veux faire ça, donc je le fais. Savez-vous que ça s'érige, ça s'élève contre la connaissance de Dieu? C'est quelque chose qui doit être amené captif à l'obéissance de Christ, parce que je mets ma volonté contre celle de Dieu, ce qui me plaît moi, contre ce qui plaît à Dieu. Donc, c'est peut-être pas ce qu'on veut entendre, mais c'est ce qu'on a besoin d'entendre, notre génération de revendicateurs, parce que, contrairement aux princes de ce monde, puis aux fils de la rébellion, sont en train littéralement de transformer ce monde en une espèce d'enfer sur terre. Puis je ne veux pas diminuer l'horreur et la réalité de l'enfer parce que ça ne se compare même pas, mais quand on regarde le monde comment c'est, avez-vous le goût de vivre dans une ville où est-ce que, tu ne sais pas s'il y a une bombe qui va sauter, s'ils vont brûler les commerces puis les autos, s'ils vont renfermer un quartier de la ville puis ils vont en faire un centre anarchique? Mes amis, quelle société! J'ai pas le goût de vivre là-dedans, moi, là. Mais notre Dieu, lui, il est bon, il est juste, il est bienveillant. Et c'est ce que notre première référence... Là, on va commencer un petit voyage dans les Écritures pour nous montrer que la souveraineté de Dieu nous amène à l'adorer. Regardez dans Jérémie chapitre 9. Notre première référence pour voir comment la souveraineté de Dieu devrait nous amener à l'adoration. Regardez Jérémie 9. Jérémie 9. On va quand même aller dans plusieurs références aujourd'hui. Parce que comme je vous dis, je veux qu'on tire de ces textes-là le sens de ce que ça veut dire le plaisir souverain de Dieu et comment c'est naturel d'avoir une réponse d'adoration. OK? D'abord, on va commencer au verset 23. Donc, Jérémie 9. Sûrement que vous connaissez, c'est un passage familier. Très beau passage d'Écriture. Êtes-vous content d'avoir entre vos mains la parole de Dieu? Ah, je veux juste vous partager quelque chose. Hier, j'ai été touché d'une façon incroyable. J'ai tombé là-dessus. C'est un... Pas s'il y en a qui connaissent ça. Ça s'appelle Tree of Life Ministry. C'est un ministère auprès des Juifs en Israël. OK? Puis ils parlent tout en hébreu, tu sais, mais c'est écrit en sous-titre en anglais, là. Puis ils témoignent à des hébreux de même. Mais c'est tellement extraordinaire. Par exemple, il y a une vidéo, ça s'appelle le chapitre interdit de la Bible. Savez-vous que les rabbins, ne veulent pas que les gens lisent Ésaïe 53? Fait qu'ils le font lire Ésaïe 53, puis ils disent, qui ça parle? Puis, wow, c'est qui ça? Puis les gens sont vraiment, ouais, hey, c'est pas... Ça, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Puis là, quand il arrive pour dire, c'est Jésus, vous devriez voir la face du monde. C'était, savez-vous qu'il y a 500 000 de Juifs en Israël qui sont sauvés? Dieu fait un œuvre de réveil en Israël pour amener des... Ça, c'est un signe des temps aussi, en passant. Hein? 500 000! Puis de voir des gens... Il y en a deux qui réagissent. À la minute qu'ils prononcent le nom de Jésus, il y en a un, là, je pense que c'est les acidiques là, qui ont des un chapeau carré, puis... Ah, c'est toi qui prononce, hey, là, il est devenu choqué. Puis, pourtant, ça dit auparavant. Tu vois juste le clip avant. Wow, ça, c'est un vrai juif. Puis, puis parce qu'il fait lire des passages prophétiques sur Jésus. Puis, même des fois, à un moment donné, ils montrent quand ils lavent les pieds, mais ils ne connaissent pas le Nouveau Testament. Fait que, ça, c'est quelqu'un de vraiment. Wow. Puis, mais là, quand il dit c'est qui, puis les gens finissent par comprendre que c'est Jésus. Hey, là, le gars, il se choque, puis il s'en va. Mais il y en a d'autres, au contraire. Il y en a qui demandent des Nouveaux Testaments. Il y a des gens qui ont été sauvés de même. Fait, mes amis, Dieu fait une œuvre. Le plan rédempteur de Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Fait qu'on ne regarde pas. Moi, ça m'a beaucoup encouragé parce que dans ma tendance charnelle, ça va mal, puis là, tu regardes les nouvelles, puis si... Non, mais Dieu est à l'œuvre, pareil. Puis si on pouvait avoir... Savez-vous, les nouvelles, là, c'est pas une bonne source d'encouragement. Je sais pas si vous avez... C'est pas une bonne source d'encouragement. Mais si on pouvait... par un espèce de miracle de Dieu, que Dieu enlève le voile sur tout ce qui se passe dans le monde puis nous montrer ce que lui seulement il fait, mes amis, on capoterait. Savez-vous, dans le monde musulman, Dieu fait des choses extraordinaires pour sauver énormément de personnes. On se rend pas compte. Vous n'avez pas entendu ça à CNN, puis pas plus à Fox News. Puis à Radio-Canada, encore moins. OK? Mais Dieu fait ça. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain, puis il prend plaisir à sauver, il prend plaisir à faire ce grand plan rédempteur. Mes amis, ça, ça me fait adorer Dieu. Hier, là, je pleurais devant mon ordinateur. Parce que je voyais ces Juifs, ces âmes précieuses qui venaient à Jésus-Christ. Ah, j'ai pas vu des gens qui posaient une profession de foi, mais tu vois vraiment des gens sous la conviction du Saint-Esprit qui disaient « Wow, ça, c'est pas quelqu'un de normal. » Puis ils disaient tout. Ça, c'est Dieu, ça. Puis quand ils demandaient, puis il y en a-tu qui connaissent Rambam? Ram. Ça doit être un personnage connu du judaïsme parce qu'il y en a qui pensaient que c'était lui. Ça devait être un héros, peut-être, de l'histoire juive. Mais il dit « Non, c'est pas lui. C'est Yeshua. » C'est comme ça qu'il l'appelle. Yeshua HaMashiach. Ça, c'est le nom de Jésus quand, pour un hébreu. C'est comme ça qu'il prononce. Amen. J'ai complètement perdu mon fil où est-ce que je t'ai rendu, mais c'est pas grave. Ah, ben oui, on était dans... On n'a pas lu encore Jérémie. Mais c'est ça. C'est la parole de Dieu. Savez-vous qu'on peut conduire quelqu'un à Christ juste avec l'Ancien Testament? C'est la parole de Dieu. Il y a assez de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament pour conduire quelqu'un au Messie. Parce que c'est ça que les autres, ils font. Ils peuvent pas aller avec le Nouveau Testament. Ils croient pas au Nouveau Testament. Ils vont pas les écouter. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Verset 23. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais regardez verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Hein? Savez-vous ce qui fait plaisir à Dieu? Exercer le droit, la bonté... Attends, je ne veux pas en manquer un. Là. Le droit, la bonté, le droit, la justice. Ça fait plaisir à Dieu. Savez-vous que ça, c'est bon quand il y a ça? Savez-vous pourquoi ça ne va pas bien en ce moment? Parce qu'il y a de moins en moins de bonté, de droit et de justice. Mais Dieu, ça lui plaît. Ça lui plaît de faire ces choses. Et là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Savez-vous, dans notre nature... Est-ce quelqu'un ici qui est d'accord qu'on est vraiment corrompu jusqu'à la racine? Mes amis, voici une illustration de ça. Dans notre nature pécheresse, on a peur de la volonté de Dieu. En tout cas, moi, je parle pour moi. Peut-être qu'il y en a ici qui ont réussi à vaincre cette tendance pécheresse. Non, je fais des jokes parce que... Dans notre nature, ça montre comment on est déchu. On a peur à quelque part de la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand on parle de plaisir souverain de Dieu, à quelque part, ça nous fait comme peur. On est comme suspicieux. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour moi? Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. Pourquoi qu'on est comme ça? Parce qu'on ne croit pas, c'est de l'incrédulité, que le plan bienveillant de Dieu est toujours bon. Ce qui fait plaisir à Dieu, là, c'est toujours, toujours, toujours bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher à la bonté, le droit et la justice? Non! Pourtant, puis comme si ce n'était pas assez ici, ça renchérit, je vous lis juste rapidement, toujours dans Jérémie, mais 32-41, ça dit dans Jérémie 32-41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays. » De tout mon cœur et de tout mon âme, car ainsi parle l'Éternel, de même que je les fais venir sur eux, sur ce peuple, tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout ce qui, tout le bien que je leur promets. Ça fait plaisir à Dieu de faire du bien à son peuple. Maintenant, la question, est-ce que je crois vraiment que le plaisir souverain de Dieu, c'est vraiment de faire du bien? Je dis, ouais, mais s'il a permis du mal, ça ne peut pas être bien. C'est là qu'on dérape. C'est là qu'on a de la misère. Parce que pour nous, si c'est bien, il faut que tout se passe comme il faut, qu'il n'y ait pas de problème. Puis là, quand il y a des problèmes, on se dit, ben là, ça veut dire que là, c'est pas bien. Ça, c'est dans notre petitesse, dans notre limitation qu'on comprend de même. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Puis, je vous donne une illustration. On parlait de Joseph. Okay?
Vous savez, Joseph, ça n'a pas été automatique de même qu'il a pardonné ses frères. Mais on sait qu'il a pardonné ses frères. Savez-vous comment on sait qu'il a pardonné ses frères? Il y a quelque chose qu'il a compris de son Dieu dans le chemin entre... Puis en passant, là, il n'a pas pris une visite guidée avec les... Je sais à qui il s'est fait vendre. C'était quoi lui? Les Amalécites, là. Non, tu sais, il était probablement pris au cou avec une chaîne, pris ici, puis là, il était tiré avec une corde comme un bétail, tu sais. C'est comme ça qu'il a fait le voyage du trou dans lequel il était pour aller en esclavage. C'était pas un voyage toute dépense payée avec Amalécite Airlines, OK? Puis, quand ça nous dit que il est arrivé dans la maison de Potiphar, ça dit que la grâce de Dieu était sur lui. N'est-ce pas? On apprend ça. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il a pardonné ses frères, à quelque part dans le chemin. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il avait eu de l'amertume dans son cœur, Dieu n'aurait pas tout fait. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On voit la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. C'est pour ça qu'on voit qu'à quelque part, il a pardonné. Puis on le voit, c'est évident, après ça, quand ses frères se présentent à lui, puis on voit qu'il pleure quand il les voit, puis il aurait pu dire, ah là, j'ai mon occasion, je vais vous faire. Pas du tout. Ils avaient pardonné. OK? La puissance du pardon. Pourquoi? Mais la Bible nous dit Dieu avait révélé quelque chose sur son plan souverain. OK? C'était une image, c'était des gerbes qui se prosternaient même. OK? Bon, c'est peut-être pas l'explication la plus claire du plan de Dieu, mais savez-vous quoi? Ce qu'il pouvait comprendre sur Dieu, il s'est accroché à ça. Dieu a eu un plan, puis je ne comprends pas grand-chose. Je veux dire, il a dû se poser des questions. Quand il était en prison, puis qu'il était... Mais il s'accrochait à ce qu'il savait sur le plan souverain de Dieu. Puis je ne sais pas de forcer le texte pour faire fitter avec le... Mais il y a quelque chose qu'il devait comprendre. Ce que Dieu veut faire, là, ce qui fait plaisir à Dieu, bien là, je suis à quelque part là-dedans, puis je ne comprends pas trop, mais je vais y faire confiance. Ce qu'il connaissait de Dieu, il s'accrochait là-dessus. Parce qu'il était dans le bout pas facile. Ça a duré longtemps, le bout pas facile. Où est-ce qu'on dit, ben là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais c'est pour ça qu'il a été capable de pardonner. C'est pour ça qu'il était capable de rester en prison puis d'encore avoir la grâce de Dieu. Parce que là aussi, on sait qu'il a pardonné à la femme de Potiphar puis tout ça. Parce qu'encore là, dans la prison, il y avait encore la grâce de Dieu qui était là au point que le garde, il l'a mis en charge de toute la prison. OK? Juste pour dire que il y a vraiment un trésor de grâce lorsqu'on accepte la souveraineté de Dieu, lorsqu'on accepte ce que Dieu veut faire, ce qui lui fait plaisir. Non seulement ça réconforte, mais ça libère. Savez-vous que Dieu, de toute éternité, il a résolu en lui-même de faire certaines choses, puis personne ne peut rien changer à ça. C'est pas ça qu'on a lu dans Éphésiens. Il a résolu en lui-même. Hein, ça sonne calviniste, me semble. T'as vu que Dieu n'est pas calviniste, puis il est parménien. Dieu est juste Dieu. Puis on ne peut pas le mettre dans une boîte d'une pensée d'un homme, puis d'une pensée de l'autre. Dieu, il est juste Dieu, puis il fait ce qu'il veut, puis il a résolu en lui-même, oui. Puis je peux-tu expliquer tout? Non. Mais savez-vous, c'est quoi le but de tout ça? Faut pas qu'on se laisse dérober le trésor de ce que Dieu veut nous donner. Ah, on essaie d'expliquer ça. Non, le but de Dieu, là, avec ce qu'il fait avec ses plans insondables, c'est qu'on l'adore. C'est ça l'idée de Romains 11, 33 à 36. Tu sais, après avoir parlé, là, justement, des grands plans de Dieu insondables, c'est quoi la réponse de Paul? Hey, je suis content, j'ai compris ça, puis... Je ne sais pas trop ce qu'il aurait pu dire, mais non. Il dit, comme les voies de Dieu sont insondables. Qui est capable d'aller voir Dieu et y donner conseil? Personne! Paul, il reste émerveillé devant un si grand Dieu. Il l'adore. Et c'est ça aussi la réponse qu'on doit avoir. Parce que notre adoration de Dieu ne vient pas du fait qu'on comprend tout, mais plutôt du fait qu'on ne comprend rien, que ses voies sont incompréhensibles. Puis qu'à cause de ça, on peut quand même lui faire confiance. Voyez-vous comment, des fois, dans notre pensée humaine, on pense qu'on va avoir une sécurité en comprenant puis en mettant, comme je l'ai dit la semaine passée, Dieu quelque part dans une case, puis on le met là, puis on a tout compris. Non, la sécurité vient quand qu'on jette la boîte par-dessus bord, puis qu'on dit, Dieu, je t'adore, t'es tellement merveilleux parce que je peux pas te comprendre. Puis c'est ça qui fait ma sécurité, parce que t'es tellement grand, je peux pas te comprendre, puis c'est ce qui fait que
Hey, je peux avoir la sécurité, puis je t'adore, parce que si je pouvais te comprendre, tu serais pas un très grand Dieu. Mais tu es tellement grand que je peux pas te comprendre. Wow! Comprenez-vous? Ça, vraiment, c'est juste Dieu qui est comme ça. Tournons dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. On a deux références dans Deutéronome. On continue à considérer comment la souveraineté de Dieu doit nous amener à l'adorer. D'abord, on voit comment Dieu, tout ce qu'il fait, il prend plaisir à faire du bien, à faire ce qui est bon, à faire ce qui est droit, à faire ce qui est juste. Mais regardez dans Deutéronome 28, 63. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Wow! Êtes-vous prêts à celle-là? Dieu prenait plaisir, on est tous d'accord avec ça, à faire du bien. Oui, il va prendre plaisir aussi à faire périr et à détruire. Écoutez, ça nous dit dans Romains 11, 22, « Considère la bonté et la sévérité de Dieu. » Bonté envers toi qui crois, sévérité envers ceux qui ne croient pas. Dieu ne prend pas plaisir à l'incrédulité et Dieu juge l'incrédulité. Mais aussi, l'inverse est vrai. Dieu prend plaisir à la foi. Savez-vous que ça dit dans... C'est un cantique d'ailleurs, je le chantais un matin parce que c'était dans mon texte, puis... Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voix. Il delights in his ways. L'Éternel prend plaisir à la voix de l'homme de bien. Puis il affermit ses pas. OK? Gardez ça en mémoire, puis tournez juste une page, en tout cas dans ma Bible, c'est juste une page, au chapitre 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Dieu prend plaisir à bénir son peuple. Puis ici, dans le contexte, là, le plaisir de Dieu est relié, ici c'est le contexte, c'est Deutéronome, c'est la loi, le plaisir de Dieu est relié à l'obéissance à la loi. Oh man, pas une très bonne nouvelle. Non, mais savez-vous quoi, si on obéissait à la loi, Dieu serait très content. Si on faisait les 10 commandements, là, Dieu dirait « Good job! » C'est vous que ça va jamais arriver. C'est arrivé une fois dans l'histoire de l'humanité, puis c'est avec Jésus-Christ. OK? Mais je ne vous ai pas dit ça pour vous décourager un matin, puis vous donner un coup de loi à sa tête, là. Je vais amener ce point-là. OK, c'est impossible à l'homme, on le sait. En tout cas, j'espère que vous le savez. D'ailleurs, si quelqu'un essaie de gagner son ciel, il se frappe au mur de la loi. Ça ne va jamais arriver. Personne n'est sans péché. Personne n'a jamais menti. Personne va arrêter de mentir. En tout cas, selon les statistiques, là. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais c'est une tendance humaine très forte. Même chose pour voler, puis des fois, c'est pas nécessairement voler quelque chose physiquement. Des fois, c'est voler du temps, ça peut être voler. En tout cas, il n'y a pas de juste devant Dieu. Mais si j'amène ces choses à la lumière de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, OK? On comprend alors que le plaisir de Dieu envers nous, les chrétiens, est parfait. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est comme si on avait accompli parfaitement la loi. Ça, c'est une méchante différence. Parce que Dieu, dans la loi, tu dis « Ah, je vais vous bénir, je vais prendre plaisir à vous bénir quand vous obéissez à ma loi. » Et des fois, je dis ça, je dis « Pauvres autres. » Pas pauvres autres, mais c'était pour nous conduire à Christ. C'était l'idée, c'était vraiment, c'était pédagogique. C'était pour dire « vous irez, ça ne va jamais arriver, je ne serai pas capable. » OK? Mais c'est là la bénédiction à cause de l'œuvre parfaite de Christ qui nous est imputée. Si vous êtes, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sans péché devant Dieu. C'est comme vous avez accompli chaque iota de la loi. Savez-vous ça? Parce que c'est pas vous qui l'a fait. Mais si vous avez mis votre confiance en Christ, Jésus l'a fait pour vous, à votre place. Puis si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ, mes amis, il n'y a pas d'espoir en dehors de Jésus-Christ. Essayez même pas, parce que ça ne peut pas arriver. Nul devant lui va être justifié par les œuvres de la loi, parce qu'on ne peut pas garder toutes les œuvres de la loi. Mais on continue, j'ai une autre petite surprise pour vous par rapport à ce que je suis en train de développer. Regardez dans Proverbe 16. Dans Proverbe 16. On va plonger un peu plus profondément dans les desseins de Dieu. Regardez, parce qu'on ne peut pas tout comprendre, puis il y a des fois des affaires, tu dis « Wow, c'est quoi que ça veut dire? » Rappelez-vous, j'ai parlé de la providence de Dieu. La providence de quoi? C'est que Dieu fait toutes choses avec un but. OK, regardez verset 4. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Autrement, Dieu a tout fait dans sa providence. OK? Même le méchant pour le jour du malheur. Oh! Avez-vous déjà été troublant en lisant ce verset-là? Moi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ici, c'est Dieu a tout fait pour un but. OK? Ce que ça veut dire, c'est qu'il l'a fait pour lui-même, pour son plaisir. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu prend plaisir à la mort du méchant, à la condamnation du méchant? Je vais dire comme Paul, loin de là! Loin de là! Dieu prend, on le sait, ça le dit dans Ézéchiel, à deux reprises d'Ézéchiel, Dieu désirait voir, là on n'ira pas voir, mais Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il le dit deux fois, comme pour être vraiment clair. Puis on a plein d'autres illustrations. Jésus qui pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui n'as pas connu le jour de... Il ne prenait pas plaisir au fait que Jérusalem rejetait son Messie. Dieu ne prend pas plaisir à la mort, à la condamnation du méchant. Puis même, il pousse encore plus loin. Dieu dit qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité, qu'arrivent à la repentance. Je viens de vous citer deux en un, Timothée puis deux Pierre. Savez-vous quoi? Ça nous ramène, comme la semaine passée, à l'inexplicable. Comment comprendre ça? Comment Dieu fait toutes choses, puis que ça dit qu'il a même fait le méchant pour le jour du malheur, mais qu'il prend pas... Je sais pas. Je peux pas tout expliquer. Je sais que Dieu n'est pas l'auteur du mal, puis que si quelqu'un est condamné, c'est pas de la faute de Dieu. OK? Dieu peut pas avoir le reproche de dire... Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un à l'enfer. OK? Maintenant, rappelons-nous sur ce Dieu. Je vais dire, oh, je suis un peu inconfortable avec tout ça. Rappelons-nous du caractère de celui qu'on considère. Savez-vous qu'est-ce que la Bible nous dit dans Michée 7, 18? Que Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est le caractère de Dieu, il prend plaisir à ça. On considère Dieu, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dieu, il prend plaisir à la miséricorde. Quand il y a quelqu'un... La miséricorde, c'est quoi? C'est sortir quelqu'un de sa condition misérable. Quelqu'un dans la condition misérable du péché, de l'endurcissement. Dieu a brisé mon cœur ces derniers temps pour ma famille. Je pense à eux, puis dans la situation. C'est tellement triste de les voir dans une situation comme ça, puis ils ne se tournent même pas vers Dieu. Mais Dieu, il prend plaisir à leur faire miséricorde. Quand je prie, ça me donne confiance de dire, Dieu, aie pitié de ma mère, aie pitié de ma soeur, de ma belle-mère, de mon beau-frère, de mes oncles, mes tantes, parce que tu prends plaisir à la miséricorde. Ah, ils sont endurcis, mais c'est pas trop dur pour toi de les sauver. Savez-vous quoi? Ça m'encourage grandement de savoir ça. Parce que c'est le caractère de Dieu qui est comme ça. Ça amène à tirer... deux grandes leçons. Là, on a vu des références un peu éparpillées. Je veux considérer deux livres qui nous enseignent quelque chose sur le plaisir souverain de Dieu. Le livre d'Esther. Tournez avec moi dans Esther. On va juste aller voir en rafale, juste des références, puis je veux tirer un point commun. Le livre d'Esther. Donc, si vous... Les proverbes, les psaumes, Job... Tu sais, si vous allez de reculons, là, si vous trouvez vos psaumes, reculez jusqu'à temps, vous allez finir par arriver dans Esther. Esther, c'est le livre juste avant Job. On va commencer au chapitre 2, verset 9. On va y aller assez rapidement, juste lire les références, puis je vais vous tirer le trait commun de ces références-là. On va voir quatre références, dans le livre d'Esther. OK? Esther, chapitre 2, verset 9. OK? Ici, quand ça dit la jeune fille, c'est Esther. Okay? Quand ça dit lui, c'est le roi Artaxerxès. Okay? La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir... Non, excusez, c'est l'énuque. C'est pas encore le roi, excusez. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. OK? On ne rentre pas dans les détails là-dedans parce que c'est pas très moral. Donc on s'entend, c'est plus... Quand on dit maison des femmes, il y a un synonyme qui n'est pas très flatteur, mais bon, c'était les coutumes des rois de l'époque. Il n'y avait pas juste une femme. Okay? Chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. Puis lisez, essayez de remarquer le fil conducteur de ce qu'on peut voir. Alors, il y a un verbe, là, j'espère que vous avez remarqué. Il plut, OK? Puis ça dit... Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, ici c'est Esther qui parle au roi Artaxerxès, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Et regardez verset 14 du même chapitre. Zeresh, sa femme et tous les amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain... matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Et regardez finalement chapitre 9, verset 5. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis et les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut tous ceux qui étaient hostiles. Avez-vous remarqué que dans toutes les références qu'on a lues, on a vu le verbe « plaire » conjugué différemment, mais « plaire » qui vient de l'idée de plaisir, « plecere », ça vient du latin. Ah, puis aussi c'est en roumain, « plecere ». Mais en latin aussi, c'est ça. Non, mais oui, c'est la racine latine. Et ces versets-là qu'on a lus, ça nous montre que, écoutez bien, la souveraineté de Dieu... s'exerce à travers l'instrumentalité de ce qui fait plaisir à l'homme. Il n'y a plus à l'énuque de prendre Esther, de la mettre dans une position bien spéciale. Il n'y a plus au roi de lui accorder sa demande pour qu'elle fasse connaître ce qu'elle voulait faire connaître. Il n'y a plus à Aman de vouloir tuer Mardoché qui finalement ça n'a vraiment pas tourné comme ça a pas tourné comme ça lui plaisait, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Et le jugement de Dieu sur les nations qui voulaient exterminer les Juifs. Dieu aussi, voyez-vous, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre dans Esther. Dieu est absent dans Esther. Il n'est pas absent, mais on voit pas son nom. C'est pour ça que même certains ont dit, « Ah, est-ce que vraiment Esther est dans le canon de l'Ancien Testament? » Parce que le nom de Dieu n'est pas là. Aucun nom de Dieu. Moi, je pense que c'est le point du livre d'Esther. C'est une époque sombre de l'histoire d'Esther. Premièrement, c'est vous, Esther n'était pas supposée de marier un roi païen de même. OK? Puis, c'était pas une bonne époque, c'était l'époque qui était déportée parce qu'à cause de leur péché. OK? Donc, c'était pas une époque très reluisante et dont ils sont bien fiers. Mais Dieu, même si on dirait justement qu'il était pas là puis qu'il les abandonnait, il était quand même là. Puis, il travaillait à travers des choses de même. Parce que Dieu est souverain. Puis, savez-vous quoi? Au bout du compte, on voit que Dieu a fait ce qui lui plaît. Il a sauvé son peuple. Savez-vous que le livre d'Esther, c'est un génocide qui était. Si Dieu n'était pas intervenu dans sa grâce, il n'y aurait plus de peuple juif. C'était littéralement un génocide qui était commandé par Aman. OK? Ça m'amène... on va faire juste un petit arrêt dans Ésaïe 62, en s'en allant vers Daniel. Mon deuxième exemple est juste pour une application ici. Ésaïe 62 et le verset 4. Ici, c'est une prophétie sur Jérusalem. Jérusalem, la ville où Dieu fait habiter son nom. Ésaïe 62, 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. On t'appellera mon plaisir en elle. On appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. et ta terre aura un époux. Mon ami, ça nous rappelle que Dieu est toujours fidèle. D'ailleurs, on voit ça, hein? Israël est aimé à cause de leur père. Dieu a fait des promesses immuables à Israël. Je suis dispensationaliste de conviction. Je pense que Dieu n'a pas fini avec Israël parce qu'il a fait des promesses qu'il ne peut pas briser. Que même si Israël n'a pas tenu son bout du contrat, c'est clair, vous étudierez l'alliance avec Abraham. Dieu va accomplir ces choses, puis ça, ça n'est une confirmation, OK? Mais je veux juste montrer que ça, quand on voit quelque chose de même, wow, quel Dieu grand, quel Dieu bon. Est-ce qu'Israël a été à la hauteur? Non. Est-ce que nous, on est à la hauteur? Non. Mais comment on peut se réconforter puis adorer ce Dieu qui ne se lance pas de faire miséricorde, qui prend plaisir en son peuple? Dieu est si fidèle envers nous, même si nous, on ne l'est pas. Il est là, il travaille de façon mystérieuse, on ne comprend pas tout, mais il est quand même en train d'accomplir le plan bienveillant de sa volonté. Wow! Ça, c'est quelque chose. Maintenant, là, je vais peut-être piler sur une coupe d'orteils. Je ne sais pas si j'ai pilé sur des orteils, mais on va aller voir dans Daniel un autre principe qui nous est enseigné parce que Dieu, à quoi il prend plaisir. Regardez dans Daniel chapitre 4 d'abord. On va en faire une autre petite série, on va lire une couple de versets en rafale encore dans Daniel. On commence au chapitre 4. Vous savez, je me rends compte, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais en étudiant la souveraineté de Dieu, c'est une des choses les plus... c'est dur d'accepter la volonté de Dieu. Ça, je vous ai dit, si on prêche correctement la théologie, là, ça nous dérange. Parce qu'on n'est pas fait sur la même mesure que Dieu. Quand on comprend vraiment que Dieu qui il est, ça marche, ça frotte avec... il y a une friction avec notre nature pécheresse. OK? Puis en voici un exemple. Regardez. Encore là, on va lire en rafale, je vais vous donner la leçon après. Chapitre 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il, regardez bien, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Regardez verset 25, toujours dans le même chapitre. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 32. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main qui lui dise « Que fais-tu ?» Et regardez finalement verset chapitre 5, verset 21. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages, et on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Toutes les références ici ont rapport avec la même histoire. L'annonce du fait que Nebuchadnezzar allait devenir comme littéralement comme un animal, là, il allait manger de l'herbe des champs, puis il est devenu fou, OK, pendant 7 ans. Là, Dieu lui a redonné sa raison juste au moment où est-ce qu'il a reconnu que Dieu domine, puis il donne le règne à qui il lui plaît, même les plus vils. C'est-à-dire, même Nebuchadnezzar, OK? Puis croyez-moi, Nebuchadnezzar était vil. C'est un homme extrêmement méchant, cruel. On a vu l'annonce de ça dans les deux premières références, versets 17 et 25. On a vu l'exécution de ce jugement-là, verset 32. La leçon qui en est tirée au verset 35, puis un avertissement, parce qu'au chapitre 5, verset 21, c'est Belshazzar qui est averti. Il est arrivé ça à ton père, you better watch, man. C'est tout bien de vérifier parce que ça va bien, ça va mal aller pour toi. Tout ça, c'est pour nous dire que Dieu place au pouvoir. Dieu est souverain, puis il place au pouvoir qui lui plaît. OK? Même si la personne est méchante. Maintenant, écoutez bien. C'est pas que la personne en elle-même lui plaît, là. Dieu prenait pas plaisir dans les voix, dans les paroles, dans les pensées de Nebuchadnezzar. Loin de là. Nebuchadnezzar détestait l'Éternel. Il était idolâtre. Okay? C'est pas qu'il prenait plaisir dans la personne en tant que telle. Même pas plus dans Cyrus qu'on a considéré la semaine passée. Mais c'est la personne que Dieu, ça lui plaisait d'utiliser pour accomplir son grand plan rédempteur, ses grands plans bienveillants dont on parle depuis le début du message. C'est la personne qui plaisait à Dieu d'utiliser dans sa providence. Et le livre de Daniel, avec l'exemple de Nebuchadnezzar puis de Belshazzar, son fils qui l'a suivi, le démontre amplement. Encore là, regardons un peu notre nature humaine par rapport à ça. Mes amis, notre nature humaine a de la difficulté à accepter cette leçon de la souveraineté de Dieu qui place en autorité qui il veut. Celui qui lui plaît. Qu'est-ce que vous pensez de notre premier ministre? Moi, j'ai de la misère à l'accepter. Savez-vous qu'il n'y a plus à Dieu de placer notre premier ministre fédéral au pouvoir? Aussi vil puisse-t-il être? Ça n'a plus à Dieu de faire ça. C'est quoi? J'ai rien à dire à Dieu là-dessus. Moi, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là, puis je vous le dis, c'est pas pour lui que j'ai voté non plus. Mais il faut croire que Dieu a voté pour lui. Parce que c'est lui qui est là. T'sais, Dieu l'a placé en autorité. Et ça rentre en conflit entre ce qui plaît à Dieu et ce qui me plaît à moi. Ça me plaît pas d'avoir ce genre de gouvernement-là. Je vous le dis, je vous le confirme. Je veux pas faire de politique à matin, là. J'amène juste un point pour illustrer. Ça me plaît pas. Je vous le dis, ça me plaît pas. Mais encore une fois, je fais juste manifester ma folie quand je dis ça. Pourquoi? Parce que je crois savoir mieux que Dieu ce qui est bon. Je crois savoir mieux que Dieu c'est comment il devrait dérouler son plan rédempteur. Savez-vous que c'est vrai pour toutes les autorités que Dieu place souverainement? La femme avec son mari, les enfants avec les parents. Les enfants vous disent « Ah, mes parents sont comme ça. » C'est Dieu qui t'a donné les parents que t'as. Les gars, notre boss, nos gouvernements, c'est Dieu qui les a mis là. Donc, le service des plaintes, c'est aux portes célestes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ose même pas cogner. Ben, non, c'est pas vrai. J'ose le faire. Je l'embellis un peu, mais... Voyez-vous, c'est de la folie aller se plaindre à Dieu. Excuse Dieu, j'ai une plainte. Cette personne-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis souvent, on est pas mal subtil. Dieu, si tu peux avoir la bonté de changer mon mari. Parce que, tu sais, il y a de la misère avec ça. Il est lent à comprendre. C'est vrai. En matin, on parlait de ça, on en riait. Je me rappelle plus, c'était pas drôle. Ma femme disait, enfin, t'as compris ça après 13 ans. Ah oui, je disais, j'arrête de courir après le monde, puis tout ça. Tu sais, quand j'ai commencé l'église, là, j'aurais voulu faire venir le monde à l'église moi-même avec ma propre ingéniosité humaine, puis ma personnalité. Quelle niaiserie, mes amis. Faites pas ça. Don't try this at home, OK? Essayez pas ça à la maison. Non, c'est Dieu, il faut y faire confiance. Puis la prière est pas mal plus puissante que l'influence humaine qu'on pourrait avoir. Puis je dis pas qu'on n'aurait pas parlé aux gens, puis les inviter à l'église, puis... En tout cas, je comprends ce que je veux dire. C'était une illustration, je ne vais pas aller plus dans les détails. Mais il plaît à Dieu de mettre tel ou tel en position d'autorité. Que ça nous plaise ou non, c'est là l'idée. Que ça nous plaise ou non, ça plaît à Dieu. Ça veut dire qu'on n'a aucun droit de regimber. On n'a rien à dire. Rien. Pourquoi? Parce que si je dis quelque chose, j'ai l'affront d'opposer mon plaisir, ce que moi je veux, ce qui me plaît à moi, avec ce qui plaît à Dieu. Mais voyez-vous l'arrogance de ça? Moi, je dis, c'est de la folie de penser comme ça. Non, c'est Dieu qui décide ce qu'il veut. Je vous dis, si on comprend bien la souveraineté de Dieu, ça devrait nous offenser, mes amis. On ne devrait pas être à l'aise. Ça devrait être la parole de Dieu avec le bâton de la parole de Dieu qui nous pique, puis qui dit, hein, tu vois comment que c'est pas dans ta nature de penser comme ça? Pour ça, je vous dis, une bonne théologie qui est proprement enseignée, ça devrait pas nous laisser indifférents. En fait, ça révèle comment qu'on n'est pas théologique, qu'on est très égocentrique, puis qu'on n'est pas par nous-mêmes la bonne pensée. Mais gloire à Dieu, êtes-vous content que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la pensée de Christ et que ces choses, vous y prenez plaisir, pas juste extérieurement, mais selon l'homme intérieur? Parce qu'on dit, ah oui, j'ai de la misère à accepter. Mais quand on se rend compte, OK, Dieu a décidé qu'il mettait cette personne-là en autorité, puis cette personne-là. Puis quand on comprend ça, je vais arriver à ce point-là, mes amis. Il y a une paix, il y a une joie, il y a un bonheur, il y a une réelle croissance spirituelle quand on accepte ce qui fait plaisir à Dieu, puis même si moi ça ne me fait pas plaisir. Il y a une liberté, mes amis. Il y a littéralement une libération. Parce qu'avec Dieu, la liberté, c'est quand on se soumet. Parce qu'on l'a dit au début, hein, Dieu est souverain, puis nous on est en dessous. Quand on accepte cette position-là, c'est là qu'on a la liberté. C'est là que vraiment on commence à apprécier le Dieu qui est dans notre vie. Que le Saint-Esprit vraiment nous convainque, qu'il mette fin à nos luttes vaines de lutter contre ces voies merveilleuses mais incompréhensibles. Et on s'entend toutes, ces voix sont merveilleuses. Ah oui, les voix de Dieu sont merveilleuses. Mais quand on ne comprend pas, on a de la misère. Mais qu'on arrête de lutter. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. C'est ça. C'est une grande leçon qu'on comprend avec la souveraineté de Dieu. C'est que Dieu est tellement grand, tellement au-dessus, est tellement Dieu, que ça ne sert à rien d'essayer de tout comprendre puis d'essayer de tout expliquer. Il faut juste y faire confiance puis baisser les bras puis juste dire, Dieu, je te laisse être Dieu. Je te fais confiance. Puis comme Joseph, je vais juste m'accrocher à ce que je connais de toi, puis c'est suffisant pour moi. Puis c'est comme ça que Dieu accomplit son plan rédempteur. Mes amis, voulez-vous être une influence pour Christ? Voulez-vous, dans ces derniers temps, qu'il nous reste si peu de temps? Oui. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Mes amis, je suis convaincu plus que jamais que le retour du Seigneur est tellement à la porte, là. C'est incroyable. Peut-être que je vais avoir raison en tant que faux prophète d'avoir dit que le retour du Seigneur est dans 2020. Hein? Rappelez-vous, début de l'année, genre, mais ça me... 2020, ça sonne fin du monde, puis ça. Mais ça se peut que j'aie raison, OK? J'espère que j'ai raison, mais en tout cas, j'en prendrai pas la gloire, c'était rien qu'une niaiserie que je disais, mais ça peut être n'importe quand que le Seigneur revient, mais écoutez bien. On veut être une influence pour le Seigneur, une influence pour nos enfants, pour notre famille non sauvée, pour nos collègues de travail. Savez-vous où cette influence-là? Dans se soumettre à Dieu malgré que je comprends pas puis que j'ai de la misère à accepter. Quand j'accepte, quand je me place volontairement là, là, la puissance de Dieu, sa bonté, sa grâce, c'est là que ça va se multiplier. Alors regardez, on dit, waouh, c'est incroyable ce que Dieu a fait à travers la vie de Joseph. Oui, c'est Dieu qui l'a fait, puis Joseph était juste out of the way. Il était juste pas d'un jambe de Dieu. C'est ça qui a fait que Joseph a pu être utilisé. Il ne regimbait pas. Il a laissé Dieu faire. Est-ce qu'on va comprendre cette leçon-là? De juste laisser Dieu faire ce qui lui fait plaisir. Même si moi, ça ne me fait pas plaisir. C'est là que le bas blesse. Parce qu'on insiste à tout comprendre et à voir les choses à notre façon. Savez-vous qu'il y a un roi qui n'était pas parfait, mais il y a une requête qu'il a faite à Dieu qui lui plaisait? Quand Salomon a demandé de la sagesse à Dieu, puis de l'intelligence, ça dit que cette requête plut à Dieu. Savez-vous ce qu'elle nous dit? Hein? Dieu, ça lui plaît quand on se place comme ça, en situation de dépendance, puis de dire, Dieu, je ne suis pas capable sans toi. Ça le plut à Dieu que Salomon se place comme ça, sous la direction de Dieu. Que Dieu brise notre esprit de résistance. Vous savez, ça parle d'un zèle amer, d'un esprit de dispute dans Jacques 3:14. Ça nous parle dans 2 Timothée 3:4 que les hommes ont préféré le plaisir plus que Dieu. Mes amis, cette lutte-là, pourquoi ne pas la laisser dans les mains de Dieu et dire, Dieu, je baisse les armes, je vais arrêter de lutter. Écoutez ce que ça dit dans Psaume, c'est mon dernier verset que je donne ce matin. Psaume 149:4, l'Éternel prend plaisir à son peuple et il glorifie les malheureux en les sauvant. Vous savez, on peut être pas mal malheureux puis misérable à résister à la volonté de Dieu. Et là, c'est autant, je parle pour les non-sauvés que les sauvés. Si vous êtes ici puis vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes misérable. Vous n'avez peut-être pas de l'âge, vous ne voulez peut-être pas le montrer au point que c'est. Mais la vie est faite que si on n'a pas Jésus réellement dans notre vie comme notre sauveur, ça ne peut pas bien aller. On peut essayer toutes sortes d'échappatoires, puis de tromperies, puis... Mais dans le fond de notre cœur, comme dirait M. Côté, quand on se couche le soir sur notre oreiller, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis un méchant gros quelque chose. On est misérable. On n'est pas fait pour vivre en dehors de notre Créateur. Puis vous autres qui êtes ici, qui écoutez, qui êtes un enfant de Dieu, on ne peut pas s'épanouir, se réjouir dans notre Dieu tant qu'on n'a pas baissé les bras de la résistance face à la souveraineté de Dieu. Donc, savez-vous quoi? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui donne un plaisir. Qu'on fasse simplement ce qu'on devrait faire en réponse à ça, juste l'adorer. Dieu, t'es Dieu, puis je t'adore parce que t'es de même. Je comprends pas tout, mais justement, à cause de ça, je t'adore. T'es tellement grand. Tes voix sont tellement insondables. Dieu, je te loue, je te rends grâce parce que t'es comme ça. On va prier. Seigneur, merci pour le fait que tu t'adresses à ton peuple encore aujourd'hui. Seigneur, on est fondamentalement corrompus dans notre nature. Seigneur, on n'accepte pas ta souveraineté de façon naturelle. Ah, mais Seigneur, pour chacun ici qui est un enfant de Dieu, toi, Seigneur, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, tu nous enseignes, tu nous prends par la main pour accepter ces choses et prendre plaisir à ces choses. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut te dire. Continue cette œuvre, brise toute résistance, amène toutes les pensées d'orgueil, d'incrédulité captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, que ta volonté se fasse dans nos vies. Et pour ceux ici qui ne sont pas encore sauvés par le sang de Jésus, dont les péchés n'ont pas été lavés, effacés à la croix du calvaire, qu'ils voient cette croix ce matin. Qu'ils voient cette croix parfaite, cette croix qui a tout accompli. Jésus-Christ qui a accompli la loi pour nous qui n'étaient jamais capables de l'accomplir. Qu'ils voient qu'il ne suffit que de se confier dans cette justice parfaite de Christ. Qui se détournent de leur incrédulité, de leur voix, et qui puissent recevoir le cadeau de la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, on invoque ta grâce. On invoque ton secours. Merci que tu es ce Dieu, on l'a vu, qui prend plaisir à la miséricorde. Oui, Seigneur, aie miséricorde et pitié de nous, on te prie ce matin. Au nom de Jésus. Amen.